Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
De Michel Charon.
Bonjour.
Et de Jacques Couture.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et le thème cette semaine sera « Il ne faut rien ». Les « il faut » sont partout dans notre société. Dès l'enfance, on nous dit « faut ci, faut ça, faut pas ci, faut pas ça, mais il faut surtout ça, 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 ça. Il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut se marier, avoir une auto, avoir des enfants. Ça, c'est le kit. Il faut plein de choses. Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui, il ne faut rien. Bon, on va rentrer dans les détails parce que quand même, ça exige une pensée éduquée pour comprendre ce que je veux dire parce que faut pas être un perdant non plus puis arrêter de faire. Ouais. Tout, mais au deuxième niveau de la pensée, il n'y a rien à faire.
Parce que tu n'as pas dit « il ne faut rien », tu l'as dit « il ne faut rien ».
Il ne faut rien.
Il faut faire la distinction. Mm-hmm. Alors, on part dans un engrenage dès notre naissance, je suis d'accord avec ça, par des parents qui eux-mêmes ont été programmés dans ce système-là. Donc, c'est une genre de suite de folie un peu qui se continue jusqu'à temps que quelqu'un s'éveille et dise « wow les moteurs ». Commence à questionner son environnement puis la raison des choses et devient maintenant un explorateur à la recherche de qu'est-ce qui est vrai. Donc, jusqu'à temps que tu arrives à cette démarche-là, tu es dans un train de fou qui s'en va nulle part rapidement et qui arrive éventuellement à une destination qui est un point parmi des milliers et qui n'a pas vraiment compris quelque chose. Donc, dans ce sens-là, il ne faut rien parce qu'on s'en va nulle part vite.
Il faut, c'est vrai qu'on entend ça tout le temps. Puis pour moi, il faut, c'est tout de suite, je vois une pression. Une pression que les autres vont me donner ou que moi-même, je me donne. Et puis je suis embarquée là-dedans, moi aussi, il le faut. Là. Il faut y penser justement de pour ne pas l'utiliser. Mais dans le fond, si on vit son moment présent, si on est zen, si on tombe dans ce milieu-là, si on tombe dans cet espace-là, ben il faut absolument rien. Il faut rien. C'est juste être.
Les autres. Souvent, sans doute qu'on fait référence à un autre des sujets de l'émission. Là, il était question de toute obligation est imaginaire. Je trouve qu'il y a quand même des éléments qui se rapprochent à ce niveau-là. Moi, de toute façon, lorsque j'entends des gens le dire ou utiliser le verbe « il faut ceci, il faut cela », souvent c'est le verbe « falloir ». Il faudrait bien. C'est pas juste le verbe « faire », au contraire, c'est plutôt « falloir ». Moi, mon falloir en question, c'est de me référer au plaisir et de me dire que ce qui me guide, c'est est-ce que cela va dans le sens de mon bonheur et de ma joie de vivre dans l'instant présent, là, plutôt que d'avoir toutes sortes d'impératifs. Souvent, c'est des impératifs financiers, monétaires, de toutes sortes, qui nous obligent, qui obligent beaucoup de gens à ne pas s'écouter, à suivre et à continuellement se demander. Et ne pas s'écouter, justement, là, ça, je sais, je mets en pratique et je suis d'autant plus attentif au fil des semaines et des jours de m'écouter dans mes désirs et que ce soit ces désirs-là qui est ma piste, qui me guide là, dans tout ce que je veux faire.
Moi, il y a une période.
Mais encore où... là, excuse-moi de t'interrompre, ouais. J'ai remarqué que j'ai dit hein, de tout ce que je veux faire, mais de tout ce qui va dans le sens qui ne va pas dans le sens des obligations, là, justement. Excuse-moi, vas-y.
Je dirais que moi, depuis mon enfance, j'ai toujours été comme en résistance à certaines choses qui sont normales. Donc, quand j'ai commencé la maternelle, j'ai arrêté de parler. Donc, j'ai fait le contraire de vouloir être avec tous ces enfants-là. Je me suis comme refermé. Et même quand je suis arrivé à Montréal, à l'âge de 24 ans, avec un baccalauréat, j'ai dit non, je veux pas travailler. Tout le monde me disait, il faut travailler, il faut avoir de l'argent. Mais j'ai dit non, ce n'est pas ce que j'ai besoin présentement. Il me faut du temps. Moi, c'est ça dont j'avais besoin. Donc, ce « il ne faut rien », je l'avais déjà appliqué au premier niveau de la pensée depuis longtemps. C'est plus tard, alors que j'ai eu des expériences mystiques très fortes que j'ai découvert qu'il ne fallait rien, mais au deuxième niveau de la pensée. Généralement, les grands maîtres, lorsqu'ils s'élèvent, lorsqu'ils s'éveillent, ils ne font que s'asseoir. Ils vont pas commencer à faire des voyages, à changer les gens. Ils se sont déjà changés. C'est souvent leurs élèves qui vont faire le prosélytisme, alors que le maître, lui, il est assis. Il ne fait rien. Il n'y a rien à faire. Il laisse les gens venir à lui, il laisse les questions venir à lui, il laisse tout se faire en lui.
Parfois, ça va de main avec de se retirer de la société comme on la connaît, parce que si tu fais ça, tu deviens un mendiant. Tu deviens un mendiant. Tu ne fais rien, tu ne produis rien, tu ne travailles pas pour quelqu'un d'autre. Dans cette image-là, tu sais, du maître qui s'assit dans le bois et puis qui luit de sa lumière interne.
Pas nécessairement. Il laisse, par exemple, il peut en avoir en pleine ville, mais il va attirer des gens, il va attirer des élèves qui vont s'occuper de lui, qui vont s'occuper du ashram, qui vont s'occuper de tout ce qu'il y a autour de lui. Mais lui, il va simplement être. C'est déjà beaucoup. Tellement peu de gens sont sur la planète.
Ça me rappelle un ancien voisin dans le temps que je vivais dans le Vieux-Québec. Il avait tout petit, j'avais l'impression que c'était un garde-robe, son appartement. On dirait que c'était prévu pour lui. Il s'était comme créé un espace. Il y avait un look ermite, comme si c'était quelqu'un qui vivait sans aucune de nos infrastructures de ville. Juste par ses vêtements, il portait toujours le même vêtement. Puis c'était déjà assez étonnant en soi, un vêtement un peu traditionnel comme pour un ermite, je suppose, avec un chapeau qui avait le look. Ça remonte à il y a 20 ans, mais je ne sais pas s'il vit encore cet homme, mais il m'étonnait donc par sa simplicité. Il y avait juste un petit lit comme de camp, mais il a peut-être vécu longtemps. J'avais l'image de lui, je n'ai jamais posé tellement de questions. On a pris un repas ensemble une fois, mais il était quelqu'un en retrait, je pense, de la société. Mais il n'était pas antisocial. Il pouvait apparaître antisocial, mais il ne l'était pas. Mais comparativement à d'autres ça va créer un effet d'attraction vers lui. Lui, je pense qu'il souhaitait être seul, vivre sa solitude et tout. Puis il semblait être heureux dans sa vie modeste, comme quelqu'un qui vit de la campagne et de la nature, qui cultive le sol. C'est un petit peu plus vrai, peut-être ça existe plus facilement en France parce qu'il n'y a pas les hivers rigoureux comme ici, mais des gens qui vivent à la ferme, ils vivent chez l'habitant, chez la personne qui cultive, puis ils s'occupent de l'hiver. Il y a toujours de quoi faire hein, sur une terre à la campagne.
Ça me rappelle quand tu vois des fois des images de centenaires ou de gens qui vivent 110, 115 ans. J'ai des images de fermiers chinois là, qui me viennent à l'idée. Là. Tu sais, des gens qui n'ont pas connu une vie de stress comme tel, sont restés à la campagne, ont vécu longtemps sur la terre, justement. Mm-hmm. Donc, il y a quelque chose à dire là-dessus. Hein, des gens en contraste avec des gens qui ont des obligations financières, qui ont des dettes à payer, qui doivent payer le loyer, qui ne contrôlent pas leur nourriture. Il faut qu'ils la jettent, donc il faut qu'ils créent de l'argent pour faire ci, pour faire ça, etc., etc. Donc, une dynamique complètement différente. C'est pas la même chose. De ce côté-là, il y a quelque chose à dire là-dessus.
Mais c'est sûr que c'est un défi de vivre cela en ville. Parce que le yoga nous amène à nous sortir du monde, à sortir du rêve. Donc, c'est un peu une fuite dans la transcendentalité. Alors que faire ça ici en ville, en Montréal, par exemple, moi, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Mais ça veut pas dire que je fais quelque chose présentement. Malgré que je suis très occupé, je ne fais rien. Je laisse tout se faire en moi. C'est dans le sens que je suis à l'écoute de l'inspiration, un peu comme quelqu'un qui fait, par exemple, du channeling, de la canalisation. Il va entendre la voix, il va dire quelque chose, il va transmettre le message. Mais moi, c'est l'inspiration, puis ça vient de mon être. Donc, je me laisse être au lieu de faire des choses, je les laisse se faire en moi. C'est plus facile. Et j'ai pratiquement pas de résistance parce que je fais juste suivre le fil à plomb, par exemple, qui s'en va directement vers le centre de moi-même.
Moi, quand j'entends le mot, la phrase « il faut », là, c'est pas une phrase, en tout cas, mettons « il faut », moi, je vois tout de suite comme une condition, tu sais, une condition à... Et puis, de l'attente, j'attends, alors que tout est là. Alors, dans le fond, dans ce sens-là, il ne faut rien. Mais cette espèce de « il faut » qu'on a souvent tendance à répéter, à dire, en tout cas, pour moi, c'est ça. C'est oublier de vivre son moment présent. Si tu vis ton moment présent, il ne faut rien. Si tu vis ton moment présent, c'est ça, en fait, être.
Qu'on veut dire.
C'est ça, alors...
Bon, on l'a dit. OK.
C'est pour ça que c'est à deux niveaux. Au premier niveau de la pensée, oui, on est dans le temps et de l'espace, puis il faut faire quelque chose. Mais c'est au deuxième niveau, lorsque tu es conscient, tu laisses les choses se faire par elles-mêmes au premier niveau. Tu n'interviens pas, un peu comme le Bouddha est l'observateur de la réalité, par exemple. Tu observes le monde, si y a la colère vient, tu la laisses passer, mais sans la faire vibrer en toi. Et on va vous laisser réfléchir à ça quelques secondes, ben quelques minutes, et on va passer à une pause musicale avec Dumais et sa chanson qui s'appelle « Je ne sais rien faire ». Puis nous allons revenir après avec ce thème « Il ne faut rien ».
Moi j'aime bien les gens, et surtout les gens comme ils sont, ça me rend souriant, ça fait voir la vie autrement. Je n'ai pas d'argent, je m'en suis fait une raison, il en faut pourtant, mais je me débrouille autrement, je pourrais me passer les saisons, l'hiver, le printemps, je suis dans naturelle patient, mais conscient. Sous la pêche, je suis pas dans le vent. Je suis pas dans le vent. Je pourrais voler pour prendre l'air, juste un peu l'air, mais j'arrive pas. Je pourrais chanter pour avoir l'air, me donner l'air, j'arrive pas. Je pourrais lancer dans les affaires comme un filet. J'arrive pas, je ne sais rien faire.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est il ne faut rien. Dans la vie, ce qui nous est dû en vertu de notre entéléchie vient à nous sans effort. L'entéléchie, c'est ce que je me suis donné à être. Certains vont appeler ça le destin, mais le destin, c'est un peu passif. Moi, mon entéléchie, c'est comme si j'avais écrit le livre de ma vie avant d'entrer dans ce monde, dans cette réalité. Donc, il y a une bonne partie des choses qui sont déjà prévues. Et ce que je veux dire, qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'il faut simplement toujours être au bon endroit, au bon moment, et laisser les choses se faire en nous sans devancer, sans manquer les rendez-vous. Et là, c'est facile. Il y en a beaucoup aujourd'hui sur cette terre qui aiment la difficulté, qui aiment ça quand c'est douloureux. Et ces gens-là, on dirait que souvent, ils sont dans le faux. Il faut plein de choses, il faut faire plaisir à tout le monde, mais ils oublient de se faire plaisir. Il faut faire plein de choses, mais ils font rien pour eux. Et ça, c'est un gros danger, à mon avis. Il faut, si on peut les couper, les enlever, faire la liste, hein, faites la liste des choses que vous avez à faire, que les autres vous ont dit que vous avez à faire. Puis après ça, c'est de les rayer ceux qui ne sont pas vraiment importants. En fait, à la fin, il ne reste pas grand-chose.
Moi, Nicolas, ça me fait réfléchir sur l'idée donc de la spontanéité, d'être pleinement soi, puisque j'ai l'impression, souvent, c'est un élément qui m'interpelle, évidemment, mais qui fait beaucoup partie de ma vie. Pas nécessairement sous l'angle où je me dis, ben, il faut ceci, cela, mais j'ai l'impression que pour les rencontres, c'est toujours moi qui dois être celui qui entreprend. Je me dis toujours, bien, je constate que les choses ne se présentent pas avec autant de facilité que c'est pas moi. Autant que c'est pas facile, ça va dans une certaine difficulté que tu disais tout à l'heure. Je le constate, je m'en rends bien compte, mais j'aimerais bien savoir de me dire, de prendre pour acquis, peut-être je suis pas assez attentif à l'attitude des autres à mon égard, mais j'ai l'impression que pour rencontrer vraiment quelqu'un, c'est moi qui dois faire les premiers pas. C'est moi qui dois complimenter, aller au-devant des gens et tout. Donc peut-être j'ai pas encore compris, ça dépend toujours comment se fait le charme, mais je crois que dans la vie de tous les jours, il y a une certaine difficulté. Les gens, dans la banalité d'un transport dans un autobus, les gens se disent, prennent pour acquis que dans un contexte social, on ne fait pas aucune nouvelle connaissance. C'est comme interdit par défaut.
Ou que c'est juste par hasard puis que ça n'a aucune...
Ça n'a aucune valeur et
aucune
tout. Pertinence.
Aucune synchronicité.
Les gens disent, ben, c'est pas comme ça qu'on rencontre habituellement. Non. On est dans un autobus. Il est interdit de parler à quelqu'un. Hein? C'est comme si j'ai l'impression que monsieur tout le monde, c'est le regard qu'il porte, c'est la manière, c'est ce qu'il dégage de lui. C'est ce qui se dégage. Comme là, dans un café tout à l'heure. C'est sûr, quand c'est dans un contexte d'un certain rapport de client serveur, et sûr, il y a une séduction minimale, mais quand même. Là, je me dis, ben, sans doute qu'il faut, ça doit être ça. Hein? Mais là, s'il ne faut rien, si je fais rien, si je ne parle pas, si je complimente pas, bien, j'aurai rien aussi, peut-être aussi.
Tu sais qu'est-ce que ça veut dire séduire? Séduire qui vient de seducere, ouais. Se donner, mener à soi. Tu vois que c'est l'inverse. Séduire quelqu'un, c'est de l'amener à soi.
D'accord.
Donc, ça, au lieu de faire ça, tu peux, par exemple, faire une émission de radio, faire une émission de télévision, devenir connu. Alors là, les gens vont venir vers toi et tu vas sélectionner. Je pense que c'est un peu... Ça dépend de la position dans laquelle tu te
trouves. Puis encore là, comme on dit toujours d'emblée dans cette émission-là, pas d'emblée, mais évidemment, on se réfère au deuxième degré aussi, pas aux premières... À la première réflexion d'il ne faut rien, là, t'sais, c'est pas le verbe comme ça, conjugué, concret, arrêtons tout, là, c'est juste, soyons attentifs au vrai sens des choses.
Et par exemple, pour moi, il faut, c'est que, par exemple, il faut aller dans des agences de rencontres, il faut faire ci, alors que moi, je me suis dit, non, il faut pas ça. Moi, j'ai dit, je vais aller dans ma passion, et j'ai pratiqué, par exemple, j'ai mis des annonces pour pratiquer l'espagnol, c'est comme ça que j'ai rencontré ma compagne principale, j'ai fait de la danse, de la salsa, ça m'a permis de rencontrer plusieurs femmes. Je ne faisais pas au premier niveau des recherches pour avoir quelqu'un, mais au deuxième niveau, j'y pensais.
Tu es très proactif
dans
ce sens-là.
Je laissais les choses se faire par elles-mêmes, mais
et c'est tellement plus romantique. Vraiment, ouais. Là. Ouais, j'adore ça. Puis tu parlais tout à l'heure de parler avec les gens. Moi, quand je suis bien dans ma peau et que ça va bien, je parle à tout le monde.
C'est naturel.
Moi, je parle à tout le monde. Okay. Ben, c'est sûr que des fois, on passe pour un fou, on passe pour une folle, mais regarde, moi, je suis comme ça, j'aime les gens, puis je parle avec les gens, puis...
Absolument, peu importe ce que les gens pensent de nous.
Oui, c'est ça, la communication, c'est ouais. Ça l'être humain, puis... Mais il faut que je sois bien dans ma peau, par exemple.
Moi, j'aimerais mentionner, tantôt, Nicolas, au début de ce deuxième segment, a mentionné le terme « antédichis » que je me suis donné à être. Ça, là... Ça implique bien sûr qu'il y a une intention prédéterminée avant la matérialisation de l'individu, avant qu'il devienne un être qui véhicule dans un costume de chair. Donc, ça, c'est profond, puis juste ça pourrait être une émission complète, hein, en passant, parce que c'est profond, puis c'est même dans certains cercles, on dirait que c'est une croyance, oui ou non, et non pas un fait accompli. Mais je vais faire... une petite séparation de ça, puis passer à autre chose que j'aimerais partager aussi, une petite réflexion rapide. Il ne faut rien. OK, d'un premier niveau. Donc, au premier niveau, on dit, mais tu as besoin d'une occupation. Alors, occupation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut souvent dire un boulot, quelque chose, un travail. Mais occupation, ça veut aussi dire invasion. Comme quand on parle de l'occupation d'un pays. Tu sais, il y a un envahisseur qui prend l'occupation. Et j'aimerais ça faire un parallèle. Je pense que c'est un peu ça. La proposition d'une occupation est un envahisseur de notre psyché. On se fait programmer par un envahisseur qui est notre occupation dans un sens. C'est juste un petit parallèle que je voulais faire.
Là-dessus. Et puis c'est très bien fait. Hein? Ça fait des milliers d'années que l'appareil manipulateur plutocratique peaufine son système. Et aujourd'hui, les gens... J'ai l'impression qu'ils se sentent libres, mais en fait, ce sont des esclaves, peut-être plus que jamais, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans notre tête. Avant, tu le sentais que tu étais un esclave parce que tu étais pauvre. Maintenant, tu es un esclave quand tu as des courriels, quand tu as un téléphone, quand tout est emmagasiné dans des grosses bases de données aux États-Unis.
Si tu es dans le système économique où tu dois générer de l'argent, pour payer des comptes, pour fonctionner, t'es un esclave. T'es un esclave.
Ouais, on l'est tous.
La chose qu'on pourrait dire, peut-être, c'est qu'on
vous
peut
l'êtes tous, peut-être. ne me compte pas dans ça. Je ne suis pas un esclave, moi. Je suis libre.
Tu es libre d'être un esclave, oui. Mais...
Non, non. Oh, oui. Non, non. Oh, oui. Parce que justement, moi, je t'es ne fais rien.
Tu es un acteur esclave.
Tout se fait en moi. Vous remarquerez que moi, j'ai... Par exemple, je n'ai pas travaillé quand j'étais dans la vingtaine. J'ai seulement travaillé après quand je me suis éveillé à la conscience, quand j'étais conscient. Donc, j'ai jamais cherché un travail. J'ai juste dit, OK, là, j'ai besoin d'argent. Puis, OK, j'accepte. J'accepte maintenant. Si on me fait des offres, je vais les accepter. Et les offres sont venues. Depuis déjà 5 ans, ça roule. J'ai jamais eu de moment où j'ai pas travaillé. J'ai juste dit oui, OK, je vais travailler. Et je ne fais rien. Je passe ma journée chez moi avec mes animaux, mes chats, je veux dire, ma compagne, on fait l'amour, je vais au gym. Je m'amuse, moi, présentement. Donc, je ne fais rien dans le sens où quelqu'un fait quelque chose, par exemple, pour avoir sa maison, pour avoir des fausses obligations, son auto, sa maison, le kit, ça coûte cher. Donc, il faut travailler. Et c'est un cercle sans fin. Moi, j'ai juste dit non, merci. Tout de suite au début. Quand c'était le bon moment, si on parle de quand j'ai commencé la maternelle, que j'ai dit non, là, je veux pas vraiment embarquer dans ce système, je crois pas à ça. Mais je le rationalisais pas comme ça. Mais maintenant, avec le recul, je me rends bien compte. Le secondaire, le primaire, surtout, c'est un lieu de torture. C'est une des raisons pourquoi j'ai pas d'enfants. Je voudrais pas les envoyer dans un lieu de torture comme ça. J'exagère un peu, mais je me sentirais vraiment mal d'envoyer mes enfants au primaire parce que c'est une usine de programmation à robots. Il n'y a rien à faire avec ça, à mon avis. Rien de bon peut en sortir.
Il n'y a pas beaucoup d'être. Hein? Il y a beaucoup de falloir et d'avoir dans cette société-là, au primaire, au secondaire. Moi aussi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, surtout au secondaire, quand on est dans le gros changement et tout ça. J'ai pas trouvé que c'était très, très sympathique, les étudiants, les collègues, ceux qui étudient avec nous. On n'est pas dans une période où on est accueilli dans notre... C'est la période où on devrait l'être le plus parce qu'on est tellement tout croche. Parce que, tu sais, l'enfant veut partir, l'adulte essaie de rentrer. Puis, tu sais, on est dans transformation. Puis, ce qu'on nous dit, c'est de performer. Puis, c'est il faut, puis il faut, puis il faut. Alors, extrêmement difficile. Moi aussi, j'ai trouvé l'école probablement un milieu de torture aussi. Ouais.
C'est pour ça, moi, j'accepterais peut-être l'école si c'était comme à l'époque des Grecs où les jeunes étaient nus. Jusqu'à l'âge de 20 ans, et puis jusqu'à l'âge de 14 ans, ils étudiaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de « il faut ». On les mettait dans un contexte avec des éducateurs, une piscine, avec des choses, des ateliers. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et je pense qu'on devrait revenir à cette idée, les jeunes, leur faire confiance, faire quelque chose que vous aimez.
Comme un buffet ouvert.
Puis on commence l'école à 14. Là, vous êtes prêts, puis intellectuellement, tout le monde est prêt.
Il y a des écoles comme ça, Nicolas. Hein?
Oui, je sais, mais elles sont très peu...
des écoles alternatives.
Fréquentées, ouais. Sont très peu.
Puis on va passer une pause musicale avec Vincent Vallière et cette chanson qui s'appelle « Envie de rien faire ». Puis nous allons revenir après la pause avec ce thème « Il ne faut rien ».
Et je meurs d'envie de changer d'air. Et je rêve souvent que je m'enfuis. fiche-moi la paix juste à soir. Demain promis, je suis reparti. J'ai juste envie de rien faire. Juste envie d'éclairer les idées noires. Juste envie de vraiment rien savoir. Juste envie de rien faire. Juste envie d'être au-dessus de mes affaires. Juste envie de flotter pour asseoir. Je veux vraiment, vraiment rien savoir. Je travaille encore sur le chiffre de nuit. J'ai rien trouvé de mieux pour tout de suite. Toujours le monde à l'envers, mais c'est quand même pas l'enfer. Et je meurs d'envie de boire une bière. Et je meurs d'envie de vivre ma vie. Fiche-moi la paix juste à soir. Demain promis, je suis reparti. Je veux rien faire. Juste envie d'éclairer les idées noires. Juste envie de vraiment rien savoir. Juste envie d'être au-dessus de mes affaires. Juste envie de flotter pour asseoir. Je veux vraiment rien savoir. Juste rien faire.
Sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Il ne faut rien ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'à un niveau plus poussé, là, c'est qu'il n'y a pas de purification à faire, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de cheminement. Tous ces gens qui vous disent « c'est baliverne », c'est des gens qui veulent vous faire perdre du temps et vous rendre confus et vous fatiguer à faire quelque chose comme ça, parce qu'on se fatigue à se purifier sans cesse, à vouloir évoluer. Moi, je suis évolué. Donc, je n'ai rien à faire. Je suis au sommet de moi-même. Et c'est pour ça que je peux dire qu'il n'y a rien à faire. Parce que je laisse ma personne faire les choses, mais moi, le Dieu vivant à l'intérieur de moi-même, activé, je regarde, j'observe le monde. Donc, quand on a parlé tantôt du premier, deuxième niveau de la pensée, c'est ça qu'on veut dire. Tu as le niveau de l'absolu, où je suis un avec tout, la non-dualité. Et tu as aussi le niveau relatif de la personne, où il y a, oui, il faut faire des choses, mais... Ça dépend du rapport que la personne a avec son être.
Je crois que oui et non. Il n'y a rien à faire, mais pour arriver à la conclusion et la certitude qu'il n'y a rien à faire, il faut que tu passes par quelque chose avant. Donc, on peut dire...
Tu viens de dire il faut. Non, il ne faut rien.
Oui, mais la plupart des gens doivent passer par un processus. Ils n'arrivent pas à conclure que je suis Dieu demain matin quand ils sortent et qu'ils sortent de leur couche et qu'ils sont rendus
sur la trottinette. Mais ça, c'est parce que dès l'enfance, on les programme à croire à ça.
Peu importe les raisons, et je les débat pas comme tel, mais ce qui veut dire, ce qui se traduit en un parcours. Un parcours qui implique des fois d'être participant à une religion ou à une organisation quelconque, pour t'amener, comme dans mon cas, quand j'avais une époque où j'avais des gourous et puis je suivais un gourou, tout ça, à un moment donné, je vois que, attends une minute, là, on ne répond plus à mes questions, mes attentes ne sont pas là, on ne parle plus le même langage dans mon processus d'évolution. Si tu es honnête avec toi, tu t'aperçois que tu es participant ou tu es membre de la synagogue ou de l'église ou de quoi que ce soit que tu participes, à un moment donné, tu vas voir que ton parcours va être différent. Et c'est cette différence-là, cette distinction-là qui t'amène à voir que, attends une minute, là. Et puis, tu vois aussi en même temps que ces organisations-là, ces hiérarchies-là, viennent qu'à vouloir te ramener vers le bas. Tu sais, ramener pour un dénominateur commun bas. Ce qui t'empêche de vraiment de poursuivre tes propres ailes puis d'avancer ta poursuite, ton exploration. Donc, par la nature même de la hiérarchie qui retient et puis qui tient l'individu dans une capsule, par le fait même, c'est ça qui amène une pression à reconnaître que ce n'est pas nécessaire. Les hiérarchies, les religions ne sont pas nécessaires. Et c'est de là qu'absolument, on s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire.
Sans parler de religion, moi, j'ai quand même un être suprême dans ma vie. Et à ce moment-là, quand je me connecte avec, parce que des fois, ça ne me tente pas de me connecter, puis j'ai le goût d'être le metteur en scène, souvent, je me plante. Alors, quand je décide de me connecter et de suivre mon intuition, parce que mon intuition, pour moi, c'est intérieur. Là, il y a un mot qui dit que c'est divin, en tout cas. Et là, à ce moment-là, eh bien, j'ai vraiment rien à faire. J'ai juste à observer et puis à suivre qu'est-ce qui est fait pour moi. Alors, à ce moment-là, si je suis dans cet espace-là, il ne faut rien. Mais si je rentre dans mon ego puis que j'oublie que j'ai un être suprême puis qui peut m'aider, là, il y en a des faux. Oh my God, que j'aime ça, des faux. Parce que pour moi, il faut, ça me rend importante. Ça me rend, ça me fait dire que j'ai le contrôle puis que je vais y arriver puis et ça m'empêche. En fait, c'est une grande insécurité dans le fond. C'est une grande insécurité de il faut, il faut, il faut. Et quand je tombe dans ma zone pas de confort mais dans ma zone, mon espace divin, ben j'en ai plus besoin de ça. Alors. Mais j'ai les deux, c'est une dualité. J'ai les deux, moi. Je veux dire, je peux pas tout le temps être dans mon espace divin. Ça marche pas. J'aimerais ça. En fait, moi, c'est mon but dans la vie. C'est mon but dans la vie, c'est d'être connecté tout le temps. Quitte à passer pour une hurluberlu, mais je voudrais vraiment être connecté puis être et
ben, pas illuminé. Fais-le. C'est ce qu'il faut que tu te dises. Il n'y a rien à faire. Tu l'es déjà. En anglais, ils vont appeler ça le the ever-present origin. C'est-à-dire que c'est l'état d'éveil est toujours là. C'est juste que les gens, en général, l'oublient.
Ils ne l'habitent pas.
L'état d'éveil, c'est quelque chose qui est là depuis le départ dans cette vie ici. C'est quelque chose qui est intemporel. Donc, c'est juste de revenir à l'origine toujours présente.
J'imagine dans l'état d'éveil, c'est aussi peut-être qu'on se dit, on se réfère aux choses concrètes de la vie. Encore là, c'est le premier niveau de la pensée. Mais j'ai eu besoin au cours de ma vie pour avoir une meilleure qualité de vie, peut-être être plus structuré, une meilleure organisation, de me référer, d'être structuré, de mettre une liste de tâches à faire. Ça, c'est dans le concret, hein, très précis, pour être bien. Que, par exemple, on s'habille tous les jours en principe habituellement, donc j'aime bien que mon garde-robe, que mes vêtements soient nettoyés, qu'ils soient disponibles et tout. Donc, peut-être après, justement, dans nos pensées, pour être plus articulé aussi, dans un autre niveau, d'être plus structuré, d'être mieux organisé, d'avoir un équilibre, un espace serein en soi, donc qui sort des sentiers, des préoccupations. Souvent, les gens, beaucoup, on est immobilisé, la peur vient affecter beaucoup la vie de la plupart des gens, hein. Peur de ne pas y arriver, d'avoir trop, de se trouver d'être trop fatigué, de ne peur ou avoir par moment un désintérêt, se désintéresser à de plein de choses qui, à un moment, nous intéressent, n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens hein, qui vont délaisser plein de choses, des activités qu'ils aimaient, que c'était leur passion, puis du jour au lendemain, ils vont tout rompre avec ce qui les anime. Pourquoi? Il y a toutes sortes de questions à se poser. Est-ce que, parce qu'avant, justement, ils s'investissaient dans des tâches, puis ils ne s'écoutaient pas suffisamment, puis pour faire plaisir à leur entourage, ils font partie d'un groupe, mettons, d'activités sociales, de danse et tout. Puis, il y aurait eu besoin, sans doute, peut-être de prendre des congés à certains moments, puis, ah ben non, suivre le courant, être toujours, suivre les amis, bien, ils le faisaient en s'en sentant obligés. Ils continuaient à participer à ces activités-là. Donc, il aurait été sans doute mieux pour eux de prendre certains moments de congé, d'avoir des périodes de retrait pour mieux y revenir, pour plus mieux se concentrer, pour continuer à alimenter. C'est comme dans les rencontres aussi. Pour moi, c'est le même avec mon amoureux que j'ai le principal en ce moment. Donc, je trouve ça extraordinaire, des moments où nous ne sommes pas ensemble, justement, parce que c'est encore plus agréable quand nous nous côtoyons. Donc, je vois ça comme ça aussi, que c'est pas parce qu'on fréquente quelqu'un qu'on est toujours obligé de faire toutes nos activités ensemble. Il y a des gens qui ont une définition un peu particulière de c'est quoi l'union, la vie en général. Bon, je pense, moi, j'ai une vision qui est pas conventionnelle, là aussi, du mode de vie.
Je pense qu'il faut apprendre à écouter cette petite voix qui nous dit « Non, là, fais pas ça. » Dans l'histoire, on peut penser à Socrate. Il parlait de son daimon, son démon. Socrate, il dit qu'il entendait une voix quand il ne fallait pas qu'il fasse quelque chose. Quand il faisait quelque chose qui était en harmonie, il n'entendait rien. Mais s'il allait s'aventurer à faire quelque chose qui n'était pas bon pour lui, cette petite voix lui disait non, fais pas ça.
Il y avait comme une sorte de malaise intérieur, quelque chose, un indicateur quelconque.
Non, mais dans le cas de Socrate, il entendait une voix. C'était une voix qui lui parlait, qui l'appelait son démon, le daimon. Et cette petite voix, il faut savoir l'entendre. Lui, il l'a personnalisé comme ça, mais cette petite voix, moi, je l'ai entendue. Et le « il faut » n'était pas si présent dans mon cas, dans ma famille. Il y avait beaucoup de liberté, on était très libres. C'était pas la grosse discipline. Il y avait quand même une discipline de base, mais par exemple, quand j'ai arrêté de parler, en fait, ce qui semblait négatif, parce que je m'intégrais pas, j'avais pas d'amis, mais en fait, moi, j'ai découvert ma passion très jeune, à l'âge de 10 ans. Et la majorité des BDistes que j'ai rencontrés, c'était presque tous des gens comme moi, des gens qui parlaient pas beaucoup, qui étaient gênés. Mais en fait, on a développé tout un monde intérieur qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un monde intérieur très fort et je me sens solide. Alors que ces gens, ces autres jeunes qui parlaient ou qui étaient très actifs, qui semblaient normal, sont pour moi des fourmis, des robots, des gens qui acceptent sans dire non si c'est pas bon pour eux. Et c'est toujours ça qui s'est passé dans ma vie quand j'ai refusé de travailler. J'avais quelque chose d'autre à faire. Je devais m'amuser. J'ai rencontré plusieurs femmes. J'ai fait des chansons. J'ai fait des toiles. Je me suis amusé. Et quand c'était le temps, ben j'ai dit « OK, allons-y. Je vais l'essayer, travailler. » Et pouf, les contrats sont rentrés. Donc pour moi, ce concept d'antéléchie dont j'ai parlé, ce que je me suis donné à être, je le vois dans ma vie parce que je suis exactement ce que je me suis donné à être. Et donc, c'est facile. Et il n'y a pas eu dans ma vie des moments très, très difficiles parce que j'ai toujours suivi cette voie qui semblait complètement contraire à la normale, mais qui quand même était totalement en harmonie avec ce que je me suis donné à être.
Moi, j'ai tendance à penser et à croire et avoir confiance en la vie, en les gens, puis à me dire que je souhaite pour eux que beaucoup de gens suivent le courant de la vie, la réalité sociale, les attentes que la société impose d'une quelconque façon. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui semblent relativement heureux et qui semblent assez épanouis dans la vie, même si, comme on pourrait dire, comme si ce que tu relatais tout à l'heure, Nicolas, ils sont peut-être des endormis, mais en même temps, j'ai confiance, j'ai une indulgence envers les gens en me disant, bien voilà, sans doute que leur vie n'est pas si pénible, puis ils peuvent s'épanouir d'une quelconque façon.
Ouais, tu es très gentil.
Ouais, c'est pas pour être gentil, mais je souhaite qu'il y ait un peu plus de gens heureux que l'on pense.
On va passer une pause musicale avec Marie-Pierre Arthur, une chanson qui s'appelle « Rien à faire ». Puis nous allons revenir après la pause avec ce même thème, « Il ne faut rien ».
Et parpiller
retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Il ne faut rien ». Lorsqu'on mène sa vie avec une intention claire, il y a une grande facilité. Moi, comme je m'en rends compte dans ma vie, il y a toujours eu cette clarté. Ma passion, par exemple, pour la bande dessinée dès l'âge de 10 ans, j'en ai fait tellement. Et on dirait que c'était comme une lumière qui me guidait toujours. J'allais pas souvent dans les parties, je n'étais pas invité de toute façon, j'étais pas populaire, j'étais le petit, celui qui parlait pas beaucoup. Alors je dessinais, je me suis trouvé. En fait, j'ai cherché à l'intérieur de moi au lieu de à l'extérieur. Donc, les « il faut » n'étaient pas si présents. Il faut travailler. Je me rappelle que pendant que ma sœur travaillait ou mes sœurs travaillaient dans un supermarché au salaire minimum, moi, j'avais trouvé un endroit où je pouvais faire des illustrations. Je chargeais, ça me prenait une heure faire une illustration et je chargeais 500$. Pour moi, il ne fallait pas travailler. Il fallait juste être intelligent et trouver la manière de travailler le moins possible pour faire de la bande dessinée. S'il y avait un « il faut » dans ma tête, moi, c'était « il faut faire de la bande dessinée ». »« Il faut faire de l'art ». Mais ça, c'est le « il faut » personnel. C'est pas le « il faut faire des choses » qu'on entend toujours depuis notre enfance et dont la majorité des jeunes ne se sortent jamais. Il faudrait arrêter de travailler pendant un certain temps. L'idée lancé par certaines personnes d'avoir un salaire qui t'est donné, qui t'est dû, ça aiderait beaucoup les gens à réfléchir et à ne rien faire. Et quand ils entreprendraient des choses, ça ne serait pas par nécessité, mais par plaisir. Tout là serait la différence.
Cela me fait penser au cure, comment on appelle déjà les genres de retraite, où il y a même des gens qui disent qu'ils partent pour une fin de semaine ou peu importe la durée, mais déjà de ne plus parler du tout, d'être dans un lieu de recueillement, peut-être méditation, un lieu en contact avec la nature, pourquoi pas, c'est beau, hein, voir les arbres, la végétation et tout. Puis, peut-être avec un jeûne, pourquoi pas, ceux qui aiment le jeûne, peut-être ça purifie, mais je crois au jeûne, mais seulement si on n'a rien à faire, si on peut juste s'étendre, boire de l'eau, entendre les oiseaux et tout, c'est très beau. Tout ça. Donc, j'imagine que les retraites, les gens disent « incroyable juste de ne pas parler pendant une journée, deux jours, trois jours », l'éveil de conscience que cela donne. Les gens sont remplis un sentiment de plénitude incroyable que de ne rien dire et ils n'ont jamais été aussi en contact avec eux-mêmes que lorsqu'ils ne parlent pas. Donc, j'imagine, j'en parle comme là, j'en fébris presque. Comment, pas fébris, c'est quoi le verbe déjà?
J'en frémis,
c'est ça. J'ai déformé le mot. Désolé aux auditeurs. Donc, moi qui aime tant le vocabulaire, les mots et le français. Donc, ainsi, je veux expérimenter ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ben, moi, je le fais deux fois par année.
Ah oui?
Oui,
tu ne parles pas?
Je parle pas pendant une semaine.
Une semaine?
Deux fois par année. Et
je
n'étais
pas au courant de ce que
c'est Vipassana?
Non, j'ai très hâte d'aller là, par exemple. Ça fait partie de mes projets bientôt. J'aimerais ça, oui. Non, c'est assez simple. C'est vraiment dans un monastère, là, dans un...
Avec des moines?
C'est avec des religieuses et puis un prêtre, tout ça, tu sais. Mais moi, je m'en fais pas avec ça. Là. Je veux dire, je vais là parce que j'aime la place, je trouve ça paisible. Et puis le fait de ne pas parler pendant une semaine, pour moi, c'est vraiment, très ressourçant. Et puis, c'est une belle discipline aussi. Pour moi, en tout cas, qui est volubile.
Ça me rappelle... Mon ex qui m'avait raconté un séminaire justement semblable qui était sur la conscience du moment présent. Et pendant, je crois que c'est un week-end, 3 ou 4 jours, les participants sont amenés à être conscients, à ne pas parler. C'est ce qui était très difficile parce qu'elle avait été là avec une de ses amies. Et durant tout le parcours, c'était en silence. Il insistait pour que les gens, quand ils mangent au lunch ou au souper, tout ça, que ça se fasse très lentement, que tu manges tes bouchées très lentement et que tu prends le temps de déposer et de regarder la cuillère, de la mettre sur la table.
Oh, qu'il y aurait de la misère avec moi. Oh, que ça sent la...
Et de reprendre l'instrument puis d'y aller très lentement. Alors, imaginez ça pendant 3 jours, de vivre au slow-mo, là. Et d'être très conscient de toutes les actions. Quand ils sont sortis de là, ils étaient complètement bouleversée de la réinsertion dans la société, parce que tout le monde paraissait faux, tout le monde paraissait comme des clowns, habités et animés par des intentions fausses, t'sais, pas carburés par des on sait pas quoi, mais ça a aucun rapport avec la conscience. Et c'était un grand choc que m'avait partagé quand elle était sortie de là.
Mais à quel moment, j'ai pas bien compris l'histoire, qu'ils paraissaient faux pendant ce...
Non, quand ils sont revenus.
Quand ils sont sortis du séminaire, quand ils ont terminé
à leur retour.
Oui, ça, ils reviennent
dans la vie de tous les jours.
Dans la vie de tous les
jours. Là, le cercle, il est vraiment évident. Là. Tu vois le cercle.
D'accord,
comme
je comprends.
Après avoir pris beaucoup de temps à être conscient dans le moment, tu vois, toutes sortes de choses.
Je trouve que le seul problème, c'est que la majorité des gens pensent qu'il faut sortir, faut aller dans un monastère, faut sortir du monde pour faire ça. Mais on peut le faire dans notre vie de tous les jours. Et par exemple, moi, je me donne généralement le dimanche pour penser, pour ne pas parler ou parler le moins possible. Et surtout quand je ne travaillais pas, je veux dire, j'étais comme ça, moi. Ce que vous faites, par exemple, ce que toi, tu fais deux fois par année, moi, c'était à longueur de jour. Et je me souviens des moments où ma compagne était partie voir sa mère aux États-Unis pendant 2 semaines. Je parlais pas pendant 2 semaines. C'était un moment où je ne parlais pas. Je faisais beaucoup de dessins, beaucoup de créations. Et c'était riche. Mais je le faisais chez moi, dans le confort de mon foyer. C'est ça que je trouve difficile, moi, c'est de voir tous ces gens qui doivent partir, sortir, fuir, sortir de leur contexte pour faire quelque chose qui est si simple. Il ne faut rien. Appliquez-le dans votre vie, à tous les jours. Vous allez voir, c'est ça, l'éveil. C'est pas... Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas
d'autres méthodologies ou recettes magiques que tu dirais.
Mais ouais. De nos côtés, il n'y a rien de mal aussi à prendre un séminaire, je ne sais pas moi, en Floride ou c'est dans les Caraïbes à faire une retraite comme ça. C'est plaisant des fois aussi, juste le déplacement.
Donc, c'est mon point de vue.
C'est pas nécessaire.
C'est pas bon.
Oui, ton point de vue, tu n'aimes pas voyager. Mais
non, c'est pas que j'aime pas voyager. C'est que chaque fois que tu prends l'avion, tu donnes beaucoup d'argent à l'appareil manipulateur. À l'appareil manipulateur plutocratique qui nous vend de l'essence, qui nous vend ci. Et c'est comme encourager un système qu'on dénonce.
Ouais.
Je veux dire, moi, je le dénonce, mais en même temps, j'y participe pas. Je prends jamais l'avion. J'ai pas d'auto. Je dépense pas dans ces choses-là. Donc, je pollue pas. J'ai pas à chialer si le niveau de le prix de l'essence augmente. C'est subtil, là.
Oui, c'est ton point de vue, mais tu enlèveras pas le désir des gens de voyager. Ça reste pas...
Je l'enlèverai pas, mais je vais le juger. Je juge très sévèrement tous ces gens qui polluent en se déplaçant sur la planète de manière physique, alors qu'il y a, il y a des moyens de propulsion totalement clean. Hein. Je veux dire, si on pense à Tesla a inventé des manières de se déplacer, et les gens sont pas prêts à ces choses-là. Donc, ils veulent...
Mais là, il y a aussi les gens qui voyagent quand même parce qu'ils ont de la famille, leurs parents, leur mère, leur père, dans un autre pays ou quoi que ce soit. Là. J'ai le cas d'un ami en ce moment. C'est aussi pour cette raison-là. C'est pas juste pour l'exotisme ou pour l'attrait de l'Europe. Il préfère le Québec, cet ami-là, amplement à la Belgique, mais il y a de la famille là-bas, là, il y allait, ça faisait 2-3 ans qu'il n'était pas allé. Mais en même temps, il y a plein de choses qui sont relatives. Là, on peut mettre les choses en contexte. Moi, j'aime beaucoup voyager aussi, mais c'est sûr que je n'aime pas non plus encourager. Mais je boycotte déjà tellement de choses dans ma vie. Je n'arrête pas. Mais pour moi, c'est un réflexe naturel. Il y a tant de compagnies que je n'encourage pas. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le moule, dans le bain là, de monsieur conventionnel, puis à encourager toutes ces multinationales et tout. J'y vais très particulièrement. Simonieusement. Puis si je peux avoir un produit nettoyant qui n'est pas d'une multinationale, ben je vais préférer le produit qui vient d'une petite compagnie locale, évidemment.
Bien sûr.
Ou dans la bouffe aussi. Si ma boîte de céréales, si elle est faite ici à Montréal, avec des produits locaux, les céréales qui ont été cultivées à la campagne à côté, eh bien, je préfère ce produit-là. Il va être meilleur, plus frais aussi. Il n'y a pas voyagé la moitié, 10 000 km pour venir, ou même le brocoli, ou les carottes nantaises, pourquoi pas?
Parce qu'ici, en tout cas, en Amérique du Nord, une bonne partie des il faut viennent du capitalisme sauvage. Il faut plein de choses pour être accepté. Hein? Ça prend un téléphone. Moi, je me suis fait souvent dire, j'ai pas de téléphone cellulaire, donc je suis pas normal, je suis pas rejoignable, c'est un gros problème. Il faut avoir un cellulaire. Il faut le changer à chaque année. Et il est fabriqué pour qu'il soit changé parce qu'il vient désuet, les ordinateurs. C'est sûr, j'ai un ordinateur, mais je ne crois pas qu'il faut le changer à chaque année. J'essaie de le changer à tous les 2 ans. Non, c'est une blague.
C'est bon, ça.
Mais tout à l'heure, un autre point que je parlais de ne pas parler, justement, j'imagine aussi un point à observer quand on est dans des groupes ou dans des lieux, c'est beaucoup le non-verbal. J'aimerais bien, il y a tout encore là, c'est tout un univers, semble-t-il, que l'on communique beaucoup plus en non-verbal qu'en verbal, même sans le vouloir, là, juste nos gestes, notre intonation, notre attitude corporelle et notre expression faciale parlent beaucoup plus que nos mots. Donc, dans une émission de radio, c'est sûr que le non-verbal, nous en avons beaucoup moins connaissance, mais nous en avons quand même connaissance par, d'une certaine façon.
Parfois, on a le sourire.
Dans la voix.
Dans la voix.
Oui, mais justement. C'est vrai qu'une retraite, oui, pour la majorité des gens, peut aider à comprendre ce que moi je suis en train de dire ici, qu'il ne faut rien. C'est-à-dire que quand tu as pu... Le Vipassana, par exemple, c'est 2 semaines où tu ne parles pas. Et c'est un gros choc. C'est une pratique. Donc, d'accord, le Vipassana, il y en a un peu partout. C'est juste le jeûne. Tu peux faire un jeûne, tu fais un Vipassana. Tu peux chercher. Il y en a à l'extérieur de Montréal. Je connais des gens qui sont allés dans des Vipassana comme ça. Ils reviennent, oui, complètement changés.
C'est vraiment une belle expérience quand on parle pas, parce que souvent on parle parce qu'on est mal à l'aise ou il y a
un vide.
Alors que là, on doit vivre toutes ces sensations-là, on les vit sans pouvoir se défendre avec la parole.
Eh bien, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On va vous laisser avec une chanson d'Alpha Rococo qui s'appelle « Plus rien à faire ». Je voudrais en profiter pour remercier le mouvement Jovialiste et Radio Centre-Ville de nous appuyer dans ce projet. Et puis, je voudrais vous souhaiter bonne semaine à tous. Merci d'avoir été à l'écoute.
Bonne semaine.
Bonne semaine, à la prochaine.
Retrouvez-nous sur proposurlebonheur.com.